Chapitre 13. Pouvoir et religion. Des liens historiques traditionnels. Cours. Pouvoir et religion. Des relations complexes dans l'Occident médiéval. Comment rois et empereurs ont-ils cherché à soumettre l'Église dans l'Occident médiéval? 1. Rois germaniques et clercs catholiques. 5e-8e siècle. A. Un nouvel ordre politique. La disparition de l'Empire romain d'Occident en 476 provoque en Europe une dislocation du pouvoir temporel. À la place de l'Empire défunt dirigé par un unique empereur, émerge une dizaine d'États rivaux gouvernés par des rois d'origine germanique, dont aucun n'est catholique. Dans les régions qu'ils ont conquises, ils doivent néanmoins composer avec les évêques. Ces clercs jouissent d'un prestige et d'une autorité considérable auprès des fidèles qu'ils dirigent. La plupart des souverains germaniques choisissent de s'appuyer sur les clercs pour asseoir leur pouvoir. Plutôt que de s'opposer aux évêques, ils s'assurent de leur docilité en s'impliquant dans leur désignation. Le catholicisme devient ainsi un instrument au service du pouvoir temporel de rois qui finissent par s'y convertir. Dès la fin du 5e siècle, pour le roi des Francs Clovis, au 6e siècle pour les souverains wisigoths, au 7e siècle pour les rois lombards. B. L'affirmation de la papauté. La suprématie du pape au sein du clergé catholique n'est pas respectée. Supérieur hiérarchique de tous les clercs en théorie, il n'a dans les faits pas son mot à dire dans la nomination des évêques et exerce une faible influence sur eux. Souverain pontife de 590 à 604, Grégoire le Grand tente d'y remédier. L'abondante correspondance qu'il entretient avec des évêques de tout l'Occident témoigne de sa volonté de coordonner leur action et de leur imposer son autorité. L'Église romaine possède de nombreuses terres en Italie. Les papes s'en servent pour compléter leur pouvoir spirituel par un pouvoir temporel en jetant les bases d'un véritable État pontifical. Dans ce but, la papauté diffuse dès la fin du 8e siècle un document qui se révélera être faux, la donation de Constantin. Ce texte prétend que l'empereur romain Constantin aurait, au IVe siècle, légué au pape le pouvoir temporel sur la partie occidentale de son empire. 2. Empereur et pape entre alliance et concurrence. 9e-12e siècle. A. Le retour de l'empire en Occident. À la fin du 8e siècle, Charlemagne réunifie par la guerre une large partie de l'ancien empire romain d'Occident. Il est couronné empereur à Rome par le pape Léon III en 800. Cette reconnaissance pontificale permet au souverain carolingien de bénéficier du prestige attaché à la foi chrétienne. L'Église obtient en retour sa protection, mais l'empire de Charlemagne ne survit pas à son fondateur. Au 10e siècle, émerge un nouvel empire centré sur l'Europe germanique. Son fondateur, Othon Ier, se fait lui aussi sacré empereur en 962 par le pape Jean XII. Ce nouvel empire, qui se veut saint, romain et germanique à la fois, entretient avec la papauté des relations conflictuelles. Othon Ier fait remplacer Jean XII, puis le pape Benoît V, qu'il juge trop indocile. En 999, son petit-fils Othon III fait élire à la papauté sous le nom de Sylvestre II son ancien précepteur Gerbert. B. La tentation théocratique des papes. Le pape Nicolas II tente de mettre un terme à l'intervention répétée du pouvoir impérial dans le fonctionnement de l'Église. En 1059, il impose que le pape soit désormais élu par les seuls cardinaux. Son successeur Grégoire VII défend un modèle théocratique selon lequel le pouvoir spirituel ne doit pas seulement être indépendant, mais supérieur au pouvoir temporel. Il crée la curie, véritable gouvernement d'une Église dont il entreprend de réformer le fonctionnement et les mœurs pour la rendre plus respectable. C'est la réforme grégorienne. En 1075, il retire au roi et à l'empereur le pouvoir de nomination des évêques. Cette décision provoque la querelle des investitures. L'empereur germanique Henri IV menace de faire destituer le pape Grégoire VII, qui prononce en retour son excommunication. Le conflit prend fin en 1122 avec la conclusion du Concordat de Worms, par lequel l'empereur Henri V, également excommunié, accepte en contrepartie de son absolution la nomination des évêques par le pape. 3. Forces et faiblesses du pouvoir pontifical. 13e-15e siècle. A. La lutte contre les hérétiques. Sortie renforcée de la querelle des investitures, l'Église affirme son emprise sur ses fidèles en organisant la répression des hérésies. Nombreuses au XIIe et XIIIe siècle, elles ont en commun de remettre en question l'utilité du clergé en prônant un rapport direct entre le croyant et Dieu. Dans les cas jugés les plus graves, l'Église a recours à la force. Les papes lancent des croisades pour réprimer militairement les hérétiques. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade pour prendre Jérusalem aux musulmans. Cette première croisade revêt une dimension religieuse, mais renvoie aussi à des considérations politiques. En 1231, afin de mettre fin à l'hérésie cathare, le pape Grégoire IX crée le tribunal de l'Inquisition, qui est spécialement chargé de la traque et de la condamnation des hérétiques. B. L'Église divisée. Au XIVe siècle, le pouvoir pontifical se trouve affaibli par les rivalités entre cardinaux. Elles aboutissent en 1378 à l'élection de deux papes concurrents, l'un siégeant à Rome, tandis que l'autre, soutenu par les rois de France, s'installe en Avignon. Un concile est réuni à Pise en 1409 pour tenter de résoudre le conflit. Il aboutit à l'effet inverse en élisant un troisième pape. Il faut attendre l'élection du pape Martin V en 1417 pour que le schisme prenne fin et que Rome redevienne l'unique capitale pontificale.